is Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer.
Salut les potos, bienvenue sur Money Time. Aujourd'hui, et à la demande de mes amis, nous allons faire un focus sur la plus grande franchise NBA qui occupe la première place de la NBA de la saison régulière. J'ai bien nommé les Detroit Pistons. Cette émission va être un banger, comme disent les plus jeunes. Money Time, saison 3, épisode 10. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite 94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange et où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time est présent sur les réseaux Facebook et Instagram, et aussi à écouter et réécouter en streaming sur www.graphite.net, et même vous pouvez la podcaster. Au sommaire de l'émission, l'actu de la balle orange et les résultats du club isarien. Première partie, Détroit à travers le temps, rubrique écrite par Pascal, que je lirai parce qu'il n'est pas là. Ensuite, focus sur Isaiah Thomas et les Pistons de 85 à 2010. Une petite interlude musicale. Le deuxième dossier, de la descente aux enfers au sommet de la NBA de 2011 à aujourd'hui. On fera notre petit quiz du Gosbo. Le thème, c'est « J'ai gagné le titre dans plusieurs franchises ». Et enfin, le buzzer beater, on se demandera, les Spurs et Wemby, quel est l'objectif d'une bonne saison. Mais avant tout, comme vous le savez, je ne suis pas seul pour cette émission et entouré de la crème de la crème.
J'ai fait une boulette.
Ah, et voilà, il n'y a pas le jingle. Ça commence bien, les amis. Ça commence bien.
J'ai mal cliqué, en fait.
J'ai glissé, chef.
Pas, tout se passe en direct.
Tout se passe, on y va, allez. C'est parti. Ah. Alors, je suis accompagné, il met autant de shoot au basket le jeudi soir que Camaro a fait de bon titre musical, c'est-à-dire un salut Buffa.
Ouais, salut. Oh, très content là.
La ref à Camaro, ça craint.
Il joue au basket comme Jules, chante sans l'autotune, donc mal, mais a le même trash talk que Draymond Green. Salut Bruno.
Salut Mehdi.
Hey, sympa aujourd'hui.
Ah, c'est hey, pas mal.
En forme, hein.
Il a la même vision de jeu que Gilbert Montagné et le même goût que Philippe Croison. Salut Baptiste.
Salut tout le monde.
Il prend autant de place dans la raquette que le Shaq, mais sans sa domination, a le même shoot que Rudy Gobert et la vitesse de Joel Embiid. Salut Jacques.
Ça va, ça va. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir.
Et voilà, pour présenter, il est autant légitime à présenter cette émission que Harry Habitant faisant ses spectacles, mais toujours prêt à mettre les autres en avant et prendre du cul tel Kylian Mbappé. Et c'est Wam number 2. Allez, on y va pour l'actu basket. Et tu te bourres pas dans le jingle.
Oh, ça va aller.
Bon. Oh là là. Excusez-nous, est-ce qu'on peut changer de MC ce soir? C'est une catastrophe. Allez, on va commencer par revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, et on a eu un programme de matchs de folie entre concurrents pour les finales assez dingues. En point de vue basket, on a eu un excellent OKC Denver au Peckham Center avec deux équipes en mode playoff. Un Jokic bagarreur est bien trop seul à l'intérieur pour cette équipe, mais qui a forcé OKC à l'overtime. Mais Caruso est sorti de sa boîte et a planté des tirs clutch pour la victoire. Vous avez vu ce match, messieurs?
Pas mal du tout. Pas mal du tout.
D'une finale, moi, je dis.
Ah, ouais. Pas mal du tout.
Moi, ça m'a
impressionné. On voit qu'on approche des playoffs quand même. Ça commence à monter en puissance.
Mais Denver, ils vont avoir le même problème que les dernières. Dès que Jokic sort, c'est une catastrophe.
C'est fini.
J'ai regardé le plus-minus, avec Jokic, c'est plus 15. Sans Jokic, c'est moins 21.
Ouais, et puis le retour d'Aaron Gordon, quand est-ce qu'il va revenir? Et dans quel état?
Et il n'est pas annoncé.
Ouais.
Hein,
s'il revient.
Ouais, par contre, OKC, enfin, premier match de Shea, 36 points. Bon, il est revenu, il a remis la valise sur les épaules. Et reparti, lui.
Il continue sa série.
Ouais, continue.
On a eu aussi un Spurs-Detroit où comment Wemby a accepté de se faire démonter pour faire briller ses équipiers pour remporter un choc d'une intensité incroyable. Mais attention, Jalen Duren a bien embêté notre Tour Eiffel. Celui-là, il était très très bon à regarder aussi. Il s'est bien fait malaxer les côtes. Hein. Ils y sont allés chacun leur tour.
Ouais, faut qu'il accepte le truc. Hein,
je pense qu'il accepte.
Il accepte le coup.
Il a compris que d'abord, ça faisait partie du jeu aussi. Hein.
Ouais, après.
Si tu fais pas ça, tu l'arrêtes pas. Hein.
Ouais, après, l'adresse a bien baissé, mais ses coéquipiers ont été bons. Champagny, Castle sur les côtés, ouais. Là, ils ont arrosé à 3 points.
C'est ça qui est fort cette année.
Ouais, c'était chouette. Mmh. Franchement, on a eu des super matchs cette semaine. On a eu ensuite le Détroit-OKC. Bon, là, j'ai été déçu, hein, parce qu'OKC, ils sont venus, et les 5 du 5 majeur, ils n'étaient pas là. Bon, du coup, on a gagné. Enfin, on a gagné. Détroit a gagné. Oh, la boulette.
Ça se voyait pas jusque-là, puis ouais. D'un coup...
Ensuite, on a eu un Spurs-New York dimanche soir à une heure assez sympathique en France, début du match à 19h, où l'on pensait que New York était en difficulté en ce moment et que les Spurs allaient croquer la pomme. Mais que nenni, des Spurs maladroits à 3 points ont laissé la victoire à New York et je pense que San Antonio a très mal défendu en ne mettant pas Wemby sur le 4. Ils ont laissé Wemby, Josh Hart et le laissé dans la raquette, ils s'en sont donnés à cœur joué à New York. Hein. Ils avaient de la place.
Ils sont pas mal New York là.
Ils sont
pas mal
ils sont bien revenus là.
Ouais, ouais. Là, ils sont bien revenus.
On a un bon français.
Josh Hart a fait du bien là.
Diawara, il fait aussi le boulot là. Il est adoré au Garden.
Et Brunson revient très, très bon.
4 est pas mal aussi. Là.
Ouais. Ouais, là, le dernier match. Ouais. Après, 4, c'est toujours pareil. Ça dépend qui défend dessus.
C'est ça. En espérant que Brunson va tenir le coup cette année.
Ouais, parce que là, il joue, j'ai regardé, il joue 39 minutes par match.
Encore ?
C'est énorme.
Oh, c'est terrible.
Ouais. C'est énorme. Et lui, c'est un peu comme Jokic. Hein. Quand il n'est pas sur le terrain,
ouais, ça se voit.
Ah oui, on voit tout de suite la différence.
Et pourtant, ils ont pris Alvarado. Moi, je pensais que ça allait faire la boucle, mais. Fin...
Ça prend pas pour l'instant.
Ouais, c'est pas du même niveau.
Il y a plus de défense quand même avec Alvarado, mais bon, tout ce qu'il fait en attaque, Brunson, tu peux pas.
Oui, tu peux pas le compenser. Ensuite, on a eu un Wolves qui ont terrassé les Nuggets. Ils ne seront pas bons à prendre au premier tour, hein, Minnesota. Ça, je voulais quand même faire un petit focus dessus. Ah là, en ce moment, ils ne perdent pas un match.
Hein. Oh, ils ont été nuls cette nuit.
Ah, ils ont été nuls, mais ils gagnent de 13 points. Ouais. Oh. On y reviendra. Mais...
Ouais,
non, mais... C'est une équipe emmerdante.
Ouais. Oui, c'est ça. Bon,
ils sont emmerdants, en fait. Parce qu'ils sont assez jeunes, physiques, et s'ils s'y mettent...
Oui, ça
le problème, c'est que tout le monde est capable de prendre feu. Là. Il y a... comment ça s'appelle ? Il y en a un moment, ils plantent 4-3 points de suite, là, dans le 3e ou 4e carton.
Anthony Edwards ?
Non.
Ah, non.
Il faudrait 13 points.
Non, non, pas cette nuit, là, le match d'avant. Là. Mais n'importe qui est capable de. Celui qui venait de New York, là, qui est arrivé avec.
Notre Italien,
oui,
d'origine italienne. Ouais, ouais, ouais.
Di Vincenzo, c'est ça. Il a pris feu d'un seul coup. Il en a mis 3-4. Là. Ça peut prendre feu de n'importe où sur Minnesota. Donc, par contre, ça va être l'équipe qui va être chiante à prendre en play.
Ah ouais, personne ne
va vraiment, personne ne va vouloir le prendre.
C'est aussi ce que j'ai écrit un peu plus tard. Mais franchement, à prendre, là, ils sont physiques. Mmh. Et quand ils ont envie de descendre et défendre tous ensemble.
Et encore, Rudy, je ne le trouve pas ouf. Il a fait un bon moment. Là, on est un peu moins bien. Là, mais...
Ils ont envie de jouer quand ils sont focus.
Oh, et puis, ils gèrent bien la défense.
C'est une sacrée équipe. Ouais.
Donc, la semaine dernière, on a eu quand même un tas de bons matchs. Et c'était vraiment super sympa à regarder. Dans les nouvelles actuelles, James Harden continue de jouer malgré une fracture au pouce de la main gauche. En revanche, on retrouve à l'infirmerie Joel Embiid, pléonasme. Bon, Joel Embiid.
Ça, alors, t'as Pascal, il en a trop fait la dernière fois.
Ouais, puis il revenait bien. Hein, c'était dommage. Enfin, c'est dommage. Il était bien dans sa position là. Quand il est pas première option, il était bien caché derrière Tharise Maxey. Enfin,
il est bien caché au banc. Là.
Et là, bon, là, il est encore plus caché
mais... derrière dans le public là.
Mais dommage.
Après, ça reste un monstre. Physiquement, ça reste un monstre. Quand il est sur le terrain, enfin, t'as 20 points d'assuré. C'est
Un peu plus que ça, même. Hein. Ouais, plus que ça.
Il prend de la place. Enfin, il fait tout bien. Enfin, moi, je l'aime bien, mais je trouve que c'est dommage. Quoi. Je pense qu'il s'est flingué la saison où il est MVP. Il a voulu trop jouer. Il a tellement voulu jouer avoir le MVP.
Tout ça pour 66 matchs quand même. Mmh. Mais bon, il est MVP avec 66 matchs. Il aurait mérité MVP la saison d'avant, je pense plutôt. Mais...
Oui, c'est ça. C'est que la saison d'avant,
il aurait dû être
MVP. Et cette saison-là, c'est Jokic qui aurait dû l'être. Mais bon.
Ouais.
Enfin, c'est pas grave. On parle de plus en plus du retour sur le parquet d'un certain Jason Tatum pour la fin de la saison régulière et pour les playoffs. Et j'ai même
lu cette
qu'il
semaine.
Était annoncé vendredi.
Ce vendredi.
Okay, si. Non, c'est
Maverick.
Non, Dallas.
Maverick. Dallas.
Ouais. Ouais, un petit match, quoi.
Apparemment, ouais, ça chauffe.
Ouais, ça y est, là, je pense que...
Mais tu le mets où ? Tu le mets... Enfin, moi je le mettrais en rotation de Jaylen Brown.
J'espère qu'ils vont le gérer comme ils ont géré... comme les Spurs ont fait avec Wemby.
Ah, c'est ça, un petit 15-20 minutes.
Jaylen Brown, il joue pas, là. Il n'a pas joué le dernier match.
Non, il n'a pas joué cette nuit, mais si, sinon, il joue...
Il joue régulièrement, ouais, mais...
Oh, tu vois, je le verrais bien en backup de Jaylen Brown. Comme ça, le temps qu'il est sur le banc, t'as un autre scoreur qui rentre.
Et puis qui se pète pas, quoi. Ça fait quand même peur. Hein. C'est un retour rapide et tout. Enfin, c'est un peu...
Mais ça fait un moment là qu'il est
c'est
sur...
C'est hyper intéressant, le documentaire qu'ils ont passé derrière. Ouais. Tu dis, putain, le mec, comment... Il croyait pas revenir. Hein. Pas du tout. Il quand pensait même pas pouvoir rejouer au basket, en fait.
Quand il se pète, ouais.
C'est des blessures, tendon d'Achille comme ça. Ouais.
Puis il faut décider, t'as eu l'opération, tu décides dans les... Dans les 12 heures, 24 heures, ouais. Enfin, il avait... Impressionnant, mais bon.
Je vous aiderai pas au niveau blessure, si je me blesse pas, moi. Et puis la semaine dernière, on a eu droit à deux matchs de notre équipe de France pour les qualifications au Mondial 2026 contre la Hongrie. Le premier en Hongrie, on s'est un peu tous regardé.
J'ai fait un peu caca dessus.
Voilà, on a serré les fesses. Je ne suis pas allé jusque là.
Non, mais
je pense que ça n'a pas été simple du tout. Les Hongrois sont revenus à égalité à 6 secondes de la fin.
T'as vu le shoot qui met le Hongrois, là, pour revenir à égalité?
Ah oui, sur un pied.
Dans le coin, là.
Moi, je pensais qu'il était à 2 au début. Mais bon, non.
Oui, ils regardent la vidéo, ils le mettent à 3. Ouais.
Et on a été sauvés sur un système assez simple, hein, double bloc, on libère Sylvain Francisco, il arrive sur la ligne et il a shooté, mais alors El Pivot, il est grand. Hein,
t'as vu la hauteur du...
Là, le ballon, comment il s'envole, et un switch, on a bien soufflé, hein. C'est un dagger de folie, deux secondes de la fin. Enfin,
et puis Francisco qui venait quasiment de faire une nuit blanche, hein. Enfin ouais, la veille, il est...
Pour arriver jusqu'au...
C'était un bon traquenard, ça, en...
Par contre, le match retour, facile. Hein. Voilà, ils ont pris 10 points très très vite. Il y avait un peu plus de rotation parce qu'il y avait Obo qui était là. C'est quand même un sacré joueur aussi, lui. Donc la France se retrouve leader avec la Finlande de ses qualifications avec un match en Belgique et la réception de la Finlande pour un match décisif qui se déroulera le 6 juillet à Pau car la France et la Finlande ont le même nombre de points. Côté filles... Alors là, il faut prendre rendez-vous quand même, parce que écoutez bien, c'est les éliminatoires du Mondial 2026 qui arrivent en Allemagne, ils se situent le Mondial. Et ils vont avoir lieu du 11 mars au 17 mars, avec 5 matchs à jouer sur les 7 joueurs. Pour cela, le sélectionneur Toupane fait appel aux valeurs sûres, avec 9 joueuses expérimentées sur 12 vice-championnes olympiques, Gabby Williams, Johannes, Malonga, la sérieule dunkeuse de la NBA, et toutes les autres pour enchaîner. Écoutez bien, Philippines, Colombie, Allemagne, Nigeria et Corée du Sud, 5 matchs en 7 jours. On fait ça, nous, hein ? Non ? On fait ça, facile.
Un bon programme. Mmh.
Ouais. Ils ont intérêt d'avoir de la rotation là, sur les 12 joueuses et de bien choisir leur match. Hein. Et du coup, on passe au match de la nuit avec un très gros choc à l'Est où Cleveland recevait le numéro 1 de la NBA Détroit et a remporté le match sur le score de 113-109. Un match âpre avec beaucoup de maladresse, surtout Cunningham qui finit à 4-16. C'était pas génial. Hein. Franchement, c'était pas génial pour Détroit, mais c'était bien pour Cleveland.
C'est clair.
En réponse.
Ouais. Et Harden.
Ouais, Harden, il a bien planté.
Il est quand même, malgré son pouce, là, on est toujours sur le pouce, mais il est quand même...
C'est un peu moins, mais il a plus donné. Ouais.
Il fait quand même bon effet à Cleveland. Quoi.
Ouais, ouais. Côté Cleveland, gros match au rebond offensif, hein, ce qui a amené 10 tirs de plus sur le match. Hein. C'est énorme, parce qu'ils finissent à 77 tirs des 3 et 87 pour Cleveland. Ouais. Ça change tout le match. Hein. Ils ont pris des rebonds offensifs à l'appel. En plus d'Harden et Mobley avec 18 points, ils ont été très bien épaulés par le match très correct de Tyson qui a mis KO les Pistons. Tyson, KO, vous l'avez ou pas ? Avec ses 22 points. Ensuite, on va faire un petit focus sur les Charlotte Hornets qui viennent de remporter leur 12e victoire lors des 15 derniers matchs. Un focus sur deux joueurs malgré une belle équipe collective. Encore cette nuit. Donc, ils ont gagné contre les Dallas Mavericks sans Cooper Flagg, mais avec un Knuppel qui va rentrer très, très rapidement dans la discussion pour le rookie de l'année.
Il est même.
Grand favori.
Avec Cooper Flagg. Il joue pas.
Maintenant, il est favori.
Il joue pas Cooper
Flagg. Il est passé devant.
Il joue pas Cooper Flagg.
Ouais, je sais pas comment c'est vu ce truc-là.
Ah, c'est les votes en un interne. Non, mais
Cooper Flagg, Dallas.
Et puis Dallas, c'est un produit de la NBA, Cooper Flagg.
Cooper Flagg, il y a la hype, il y a ce qu'il a fait au début de saison.
Et le classement de l'équipe a pas trop d'intérêt, par contre.
Ouais.
Ouais,
et mais Knoppel, on en parle beaucoup quand même. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est aujourd'hui
ouais, c'est lui le rookie de l'année.
Pour moi, il est devant.
Il a changé Charlotte.
Bah, il est encore rookie du mois en plus.
C'est vrai.
Charlotte, tu les vois jouer, c'est agréable.
Et l'autre joueur, c'est Brandon Miller qui amène sa troupe vers les sommets avec une deuxième partie de saison digne d'un All-Star. Et ce mec-là, on n'en parle pas.
On n'en parle jamais. Miller. Mais pourtant,
alors,
c'est un joueur qui fait son
points,
boulot.
13 rebonds.
Il fait son boulot à chaque fois, lui.
Il est incroyable.
Mais c'est vrai qu'il a, ouais, il a pas de, lui, il a pas de hype. Ouais. Pourtant, c'est un joueur qui fait son boulot. C'est vrai. Hein.
Exactement. Allez, on traverse l'Atlantique et on va donner des nouvelles de nos belles équipes isariennes. Bon, cela va être assez bref au niveau basket, car seul Beauvais en National 3 a joué, car les équipes de Prénat suivent les vacances scolaires des Hauts-de-France. Donc, il n'y a pas de match, ils reprennent tous ce week-end. Donc, par contre, Beauvais a battu Césaire Levillain, j'espère que je le prononce bien, 88 à 56.
En Normandie, la banlieue de Rouen, toujours.
Ah, c'est chez toi, Tizoc. Ok. Et ils ont fait une excellente première mi-temps et un bilan de 10 victoires, 8 défaites et a stoppé une série de 3 défaites de suite, donc ça c'est bien. Alors ils sont 8e, mais j'ai regardé le classement, mais ils sont qu'à un match de la 3e place.
C'est
alors
ça.
Ils sont, il y a 5 équipes qui se tiennent en un match, c'est très 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 serré. On donne rendez-vous pour ce week-end en Prénat Poule A, Gouvieux se déplace à Amiens. Et Marny joue à domicile ce dimanche à 14h contre Wascal, un match important pour finaliser le maintien. Et Crépy dans la poule blé de Prénat reçoit samedi soir à 20h30 à Liévin pour conforter sa magnifique remontée au classement. C'est un must win, hein, car Liévin est dans les profondeurs du classement, ils sont obligés de le prendre celui-là.
Ils jouent Liévin ?
Bah oui, c'est ce que j'ai
vu. Ah oui, ils sont dans la poule. DB, ils sont dans la poule.
Ils ont joué qui la dernière fois ? Ils n'ont pas joué Liévin la dernière fois ?
Qui ?
Crépy.
C'est tout le match aller ? C'est tout le match aller, mais en tout cas, Liévin, je sais qui ils sont.
Côté filles, en Prénat ce week-end, les filles de BBLC de la Croix se déplacent à Mouveau chez les premiers et Compiègne reçoit les deuxièmes Tourcoing. Allez, on lâche rien, on y va. Actuellement, la Croix est 7e et Compiègne 8e. On n'oublie pas d'aller soutenir nos clubs. Allez, on y va, Buffala, parce que tu fais des signes, t'es en retard. On passe maintenant à notre dossier et on va commencer sur une présentation de Détroit Global avant de rentrer dans le vif du sujet en évoquant plusieurs périodes. Détroit, terre désolée, mais terre de miracles. Quand on pense à la ville de Détroit, on pense à quoi ? Aux voitures, aux usines, les plus érudits d'entre vous, c'est-à-dire personne dans ce studio, évoqueront le voyage jusqu'au bout de la nuit de Céline. On pense au fordisme, à la misère sociale d'une classe ouvrière devenue progressivement orpheline de sa prospérité automobile. On pense à des ghettos où la communauté afro-américaine, plus majoritaire que dans aucune autre grande ville des États-Unis, s'entasse dans le décor désolé de friches industrielles, aux émeutes, aux cracks et à cette mise en faillite de la ville en 2013, croulant sous plus de 18 milliards de dollars de dettes. On pense à la bande-son de la Motown, la belle soul que Diggers Réunion exalterait mieux que moi. Cette ville, française au départ, eh oui, traverse le 21e siècle comme un personnage d'un film de Scorsese, grandeur et décadence dans un cycle éternel. Et au milieu de tout ça, le basket. Là aussi, les Pistons ont tout connu. Cette dynastie des bad boys qui, à la fin des années 90 et au début des années, à la fin des années 80 et au début des années 90, règne sur une NBA sous le choc de la rugosité qui se dégage des Bill Laimbeers, Dennis Rodman, Rick Mahorn, John Saleh, Joe Dumars et bien sûr Isaiah Thomas. Plus que de l'âpreté au combat, on décèle chez les Pistons une violence faite de rage, de révolte contre les strass et les paillettes de là où l'établissement celt du Massachusetts.
Pas facile à placer.
Ouais, hein, Massachusetts.
Massachusetts.
Ouais. Les Pistons sont là pour inculquer aux autres les notions de souffrance et de sacrifice, souvent contre leur gré. Ce sont eux qui façonnent Michael Jordan, qui développent dans la haine qui leur vouera l'exigence physique, l'excellence du jeu et la puissance de la volonté. C'est son Altesse qui renvoie les Pistons progressivement dans les abysses de la Ligue, d'où Détroit ne ressortira que 10 ans plus tard à la faveur d'une nouvelle génération de durs au mal, auxquels les habitants de Motor City s'identifient logiquement. Des oubliés revenus sur le devant de la scène comme un groupuscule armé. Big Ben Wallace et son alter ego Rashid à l'intérieur, un backcourt clinique. Billups et Rip Hamilton appuyés par des roleplayers intraitables, Treshawn Prince, Mac Dias ou Lisey Hunter. Le titre de 2004 est une hérésie sportive face à l'armada de Hall of Famer des Lakers de Shaq, Kobe, Malone et Peyton. La victoire des cols bleus. Malheureusement, après quelques belles campagnes en post-saison, la roue tourne à nouveau. Le Heat, les Celtics et les Cavs renvoient les Pistons dans une crack house de résultats. Détroit est dévasté, jusqu'à l'overdose. C'était il y a 3 ans seulement, 28 défaites consécutives, un record. La nouvelle salle, la Little Caesar Arena, porte mal son nom. Pas de laurier ici, et les fantômes du glorieux Palace d'Auburn Hills, salle mythique détruite en 2020, ont semble-t-il quitté les lieux comme le public. Et puis, l'impensable va se produire à nouveau. Derrière une superstar en devenir qui a supporté la tempête sans rechigner, et un jeune intérieur dur au mal, l'équipe devenue la risée de la NBA va se reconstruire en une seule saison, déjouant tous les pronostics, défiant toutes les attentes. Qualifiés pour les playoffs 2025, les Knicks auront besoin d'un coup de pouce inespéré de l'arbitrage pour se défaire d'une troupe de mercenaires qui ne font plus rire personne. Et aujourd'hui, à l'heure de ces lignes, l'une des plus belles renaissances de l'histoire de la NBA continue de s'écrire. Les Detroit Pistons sont redevenus un cauchemar pour les riches, les bien-pensants, la star system et l'institution. La révolution est en marche. Bad boy for life. C'était bien ou pas?
Magnifique.
C'était bien.
Magnifique.
Ouais, mais t'as pas écrit, on le sait.
Non. Non, qui c'est est l'écriture ton... de Pascal, pour être tout à fait franc.
Le ghostwriter.
Ouais. Il ne peut pas être avec nous pour des raisons politiques. Nous n'en dirons pas plus.
Mais cela ne nous
regarde pas. Exactement. Alors maintenant, première partie de notre dossier. On va faire un focus sur Isaiah Thomas et les Pistons des années 80 à 2010 avec notre bon Bruno. Et aujourd'hui, il est content. Il est content. Ah, t'as écrit sur ton équipe préférée.
Ah, mais je reste quand même sur le jingle.
Pas content.
Pas content. Alors, on va parler d'Isaiah Thomas. Mais c'est vrai qu'à la base, Isaiah Thomas, c'est pas un joueur que j'aimais beaucoup. Mais c'est le problème aussi, c'est. Enfin, c'est vrai qu'il s'est construit sur la. Sur le combat avec Jordan. Donc, c'est vrai que bon, c'était toujours. Il avait le rôle du méchant, quoi. Bon, c'est le meneur emblématique des Detroit Pistons, c'est l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire de la NBA. Il a été drafté en 1981, et celui qu'on surnomme Zeke, ou l'assassin à tête d'enfant, devient rapidement le leader d'une équipe qui va profondément transformer la ligue. Sous son impulsion, Detroit passe d'une franchise sans identité forte à une machine redoutée, les Bad Boys. Alors au début des années 80, Détroit c'est pas encore une puissance vraiment du basket. L'arrivée d'Isaiah Thomas change tout, son talent, son leadership, son mental forge une nouvelle culture. Autour de lui, la franchise construit progressivement une équipe dure, physique et parfaitement adaptée à l'intensité des playoffs. Il y a quelques éléments clés de cette construction et ils sont Chuck Daly, un coach visionnaire qui impose une discipline défensive extrême, Joe Dumars, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Rick Mahorn qui complètent un collectif où chacun connaît son rôle et l'équipe adopte une identité. Agressive, rugueuse, parfois controversée, mais terriblement efficace. Cette montée en puissance culmine à la fin de la décennie des années 80 avec quelques péripéties entre deux, notamment en 1987 où Dennis Rodman déclare que Larry Bird est entre guillemets surcoté parce qu'il est blanc. Interrogé ensuite, Isaiah Thomas approuve maladroitement l'idée, affirmant que si Bird était noir, bah, il serait qu'un autre très très bon joueur. Après ce qui s'est passé au Game 6, des finales de 1988 contre les Lakers, c'est quand même assez impressionnant. En troisième quart-temps, Thomas, on voit encore, vous pouvez retrouver les images, se tord violemment la cheville en retombant après une passe décisive. Malgré la douleur, il revient immédiatement sur le terrain. Alors il inscrit 25 points dans le seul troisième quart-temps, un record NBA en finale, tout en boitant visiblement. Il termine le match à 43 points, 8 passes et 6 interceptions, portant presque les Pistons vers le titre. Mais le titre, il arrivera les années suivantes. Les Pistons atteignent leur apogée avec 2 titres consécutifs en 89 et 90, menés par un Isaiah Thomas au sommet de son art et les Jordan Rules mis en place pour limiter l'impact de Michael Jordan. L'idée centrale des Jordan Rules, c'est ne jamais le laisser jouer en 1 contre 1. En 89, il balaye les Lakers de Magic Johnson. En 90, Thomas est élu MVP des finales et c'est le symbole de son impact total sur le jeu. Les Bad Boys dominent la ligne grâce à une défense suffocante, une cohésion exceptionnelle, une mentalité entre guillemets de nous contre le reste du monde, assumée par Thomas lui-même qui dira plus tard que son équipe entre guillemets n'était pas invitée à la fête et l'a pourtant envahie. En 91, pourtant, c'est la fin du règne. Les Chicago Bulls de Michael Jordan prennent enfin le dessus après plusieurs années de rivalité intense. Ils balaient Détroit en finale de conf. Une image restera. Isaiah Thomas et plusieurs joueurs quittent le terrain avant la fin du match sans serrer la main des Bulls. Un geste qui deviendra l'un des épisodes les plus controversés de la NBA et le symbole de la fin d'une ère et d'une rivalité féroce. Un geste aussi qui, on ne sait pas encore, signera peut-être aussi la fin des espoirs d'Isaiah Thomas de participer au JO de Barcelone et de la Dream Team qui va avec, remplacé par John Stockton, parce que plusieurs joueurs ont dit « si lui il y est, moi j'y suis pas », notamment Sa Majesté. En tout cas, cette défaite marque le début du déclin. L'équipe vieillit, les tensions internes augmentent, la ligue évolue vers un jeu plus offensif et moins physique. Ensuite, il y a le vide des années 90 pour Détroit, 91. Détroit entre d'une longue période de transition après la défaite contre les Bulls. Isaiah Thomas prend sa retraite en 94 et les Pistons perdent leur identité. Ils alternent des reconstructions inachevées, des changements de coach et des résultats irréguliers. La franchise doit attendre le début des années 2000 pour retrouver une vraie ambition. Détroit revient au sommet en 2004 avec une équipe totalement différente des Bad Boys originels, mais quand même des nouveaux visages qui la rappellent. Chauncey Billups, le meneur calme et clutch. Rip Hamilton, le maître du jeu sans ballon. Ben Wallace, le meilleur défensif. Tayshaun Prince, le polyvalent et intelligent. Et Rashad Lewis, l'ingrédient final qui change tout. En finale NBA, ils affrontent les Lakers, une super team, avec Kobe, LeBron, comme on l'a dit précédemment, Malone et Payton, et ils les battent. Alors que tous les observateurs voient les Lakers largement favoris. Pourtant, les Détroit créent encore une plus grande surprise de l'histoire. Les Pistons dominent la série, remportent le titre grâce à une défense collective exceptionnelle et un esprit d'équipe qui rappelle d'une certaine manière les Bad Boys. Pour conclure, Isaiah Thomas a façonné l'identité des Pistons. Son leadership a permis la création des Bad Boys, une équipe qui a marqué la NBA par son style unique et son efficacité. Et après son départ, l'esprit qui l'a insufflé, la dureté, la solidarité, la résilience a perduré jusqu'au titre de 2004. Détroit reste aujourd'hui associé à cette culture forgée dans les années 80, une franchise qui ne recule jamais, même face aux géants.
Merci mon bru. Ça c'est bien ça. Ah, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Après, ils ont fait les Jordan Rules parce que Détroit avait un objectif, Jordan il rentre pas dans la raquette. Ouais. À chaque fois qu'il prenait la raquette...
Et c'est rigolo de voir le détail et tout.
Mais moi, c'est les années, tu sais, où j'ai commencé à regarder le basket, quoi. 88, 89, 90. Donc, c'est pour ça que je suis tombé fan de cette franchise, parce que c'était vraiment ça. C'était Détroit contre les autres. Ouais. Et moi, j'aime bien...
C'était vraiment eux contre le reste du monde.
La cause des petits, moi. Toi aussi, non? Parce qu'on est de la même génération.
Ouais, moi, je suis né en 181 que Isaiah Thomas arrive à Détroit. Moi, ça m'a... Bah, c'est pareil, hein. Alors, peut-être plus la deuxième génération, parce que j'étais encore tout jeune, moi. J'ai dû regarder un petit peu certaines cassettes pour voir d'où venaient ces histoires de Bad Boys.
Explique ce que c'est une cassette, parce qu'il y en a, ils comprennent.
VHS.
Ah oui, enfin, je parle du magnétoscope. non, mais effectivement, c'est... Jusqu'à aujourd'hui encore, c'est une franchise et une équipe, moi, qui m'a imprégné à tout niveau, hein. C'est-à-dire que, au niveau de la défense, au niveau de la hargne, et de pas se laisser faire. Et que ça, c'est quelque chose qui, entre parenthèses, c'était à la portée de tout le monde, mais eux, ils l'ont sublimé.
Pour expliquer aux jeunes, quand même, les deux qu'il y avait dans la raquette, donc les postes 4 et 5 avec Bill Laimbeer surtout, ils ne joueraient plus au basket aujourd'hui. Ah ouais. C'est impossible. Oui. Draymond Green, c'est un gentil pour eux.
Oui.
Ah, mais il faut voir les fautes. Jordan, il est rentré, il prenait une tarte. C'était, je pense qu'il
jouait. Des vraies tartes.
Et t'as revu l'image aussi quand. Des vraies tartes. Quand Malone, il défonce, par contre, Isaiah Thomas. Il lui met ses 40 points de suture et il finit à la fin. Enfin, la réciprocité.
Cogné, hein.
Enfin,
par contre, à l'époque, ça cognait. Hein. Ah, ça cognait fort. Et oui, Jordan Rules, ça aussi, hein, on peut en parler. Hein, donc, qui rentre pas dans la raquette, des prises à deux. Et puis, il y avait aussi la pression mentale. C'est vrai que c'était des matchs hargneux. Hein, c'était pas
tu revois les images, même, salon, hein. Même en dehors du ballon, en fenêtre, il venait le bousculer tout le temps. Ouais. Il venait le frotter.
C'est à quoi Steve Kerr se plaint aujourd'hui avec Stephen Curry, en fait. Qu'il n'arrive jamais à se démarquer parce que les arbitres regardent le ballon et ne regardent jamais ses déplacements. Et en fait, il y a un tas de fautes sur Stephen Curry quand il veut se déplacer pour venir chercher le ballon.
Juste l'empêcher de faire ça, son chemin, quoi.
Non, c'était... En fait, voilà. Non, mais vraiment, pour expliquer aux plus jeunes qui n'ont pas connu ces périodes, je pense que le Détroit des fins des années 80, il ne jouerait plus aujourd'hui. Enfin, il prendrait des antisportives, des flagrant one ou deux à chaque fois, quoi.
Je vais prendre la parole juste deux minutes, justement, pour parler d'un joueur que tu as cité. Si on parle des Trois Pistons, on ne parle pas seulement d'une franchise NBA, comme tu as dit, on parle d'abord d'une ville, une identité, un caractère. Parce que les Pistons, c'est l'un des clubs qui ressemble le plus à l'endroit qu'ils représentent. Détroit, c'est une ville forgée par l'industrie, comme tu as dit. Usine automobile, Ford, General Manager, Chrysler. Une ville ouvrière, dure, fière, marquée par les crises, mais aussi par une capacité incroyable à se relever. Et ce n'est pas par hasard que son nom, Pistons, renvoie directement à cette histoire mécanique et industrielle. Le piston, c'est la pièce du moteur, le cœur de la machine. Rien que dans son nom, ce club porte l'ADN de Détroit. Et s'il y a bien un joueur qui représente cette identité, c'est Bill Laimbeer. Ah. Moi, j'ai voulu faire justement un focus sur lui.
Bill Laimbeer.
Le méchant.
C'était pas juste un pivot, c'était un personnage.
Ah oui.
Un vrai, le genre de joueur que les supporters adorent et que tout le reste de la NBA déteste. Grand, dur, provocateur, toujours prêt à rentrer dans la tête de l'adversaire. Laimbeer a été l'un des symboles absolus de Pistons dans les années 80 et surtout de cette équipe devenue mythique, les Bad Boys. Il a passé 12 saisons à Détroit et il reste encore le meilleur rebondeur de l'histoire de la franchise. Les Bad Boys, ce n'était pas un surnom marketing, c'était une déclaration de guerre. Détroit jouait dur, très dur, avec une défense étouffante, un engagement total et une vraie volonté d'intimider. Et au cœur de tout ça, Bill Laimbeer incarnait parfaitement l'esprit de cette équipe. Basket rugueux, sans sourire, sans cadeau. Avec lui, chaque match ressemblait un peu à un combat. Il ne cherchait pas seulement à gagner, il cherchait à faire dérailler l'adversaire et à le pousser à bout, à lui faire perdre ses moyens. Et franchement, il le faisait comme peu de joueurs ont su le faire. C'est aussi pour ça qu'il est devenu l'une des figures les plus marquantes de cette époque. Quand on pense aux Bad Boys, on pense à Isaiah Thomas, Joey Dumars, Dennis Rodman, mais on pense surtout à cette dureté, à cette identité de Détroit, et Bill Laimbeer en a été le visage le plus assumé. Un joueur qui collait parfaitement à l'image d'une ville ouvrière, fière, solide, qui ne reculait devant personne. Et ce qui est fort, c'est que ce style n'était pas juste spectaculaire, il a gagné. Détroit a remporté les deux titres, 89-90, en s'imposant sa loi à toute la ligue. Il y a un petit détail que je ne sais pas si tu connais. Bill Laimbeer a été tellement identifié à ce basket brutal, tellement associé à cette image de méchant, qu'il a même eu le droit à son propre jeu vidéo.
Ouais.
Bill Laimbeer combat basketball. Oh. Sorti sur Super Nintendo, un jeu à son image.
Il doit être collector.
Violent, délirant, sans vraies règles, exactement comme la légende qu'il a traîné sur les parquets.
Oh, ah, Laimbeer.
Ça, je ne savais pas ça. Le jeu vidéo, je ne savais pas. Ouais. Pourtant, je suis très jeu vidéo. Celui-là, je ne l'ai pas vu passer.
Et il sera jamais au Hall of Fame parce que, alors qu'il y en a maintenant, ils font rentrer plein de mecs au Hall of Fame. Tu te demandes des fois si c'est mérité. Mais bon, ça, c'est mon avis. Mais et un mec comme ça, bah non, parce que.
Non, parce que pour eux, pour la NBA, il était trop violent, il était hors des règles.
C'est ça, en fait. Lui, des fois, je me demandais si c'était vraiment bon au basket, en fait. Parce qu'il met tellement de coups. Et il est tellement en train d'appuyer sur les gens, il est en train de mettre la pression.
C'est vrai qu'il faut revoir les images, en fait.
Je me suis dit, mais il s'est joué au basket quand même, ce mec-là, ou pas? Et en fait, si, il prend l'air bon, il se met des points, mais il est tellement.
C'était un bon shooter aussi.
Ouais, ouais. Qu'on en oublie que c'est un bon basketteur, en fait. Tellement c'était un combattant.
Ouais, c'est ça, c'est qu'il est tellement identifié bagarre que le reste a été oublié. Et il a son maillot.
Le maillot est retiré.
Ah oui, ah oui.
Retiré, hein.
Largement.
Le 40.
Largement.
Non, mais c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Après cette émouvante déclaration d'amour à ce superbe club, qu'est-ce que tu nous mets comme musique pour nous détendre?
Oh, mais c'est plein d'émotions entre monsieur.
Pleure pas.
Non, mais écoute, voilà,
le
petit texte poétique, maintenant, voilà.
Mais
déclaration d'amour. Forcément, on va passer Eminem.
Dis
Détroit, tu me dis.
C'est soit de la Motown, soit c'est.
On aurait pu de la Motown, mais Eminem quand même, tu vois.
Parce que c'est quand même une sacrée ville historique aussi. Détroit, c'est quand même une sacrée ville, quoi. Aux États-Unis.
Musicalement aussi, il y a beaucoup à dire.
Non, mais quand tu sais que c'est l'une des villes où il y a le plus d'Afro-Américains, en fait, tout ça...
Ça, je savais pas ça.
Ça s'est formé, tu vois, au niveau de la musique.
Ça, je savais pas ça. C'est même étonnant, d'ailleurs. Mais je pense pas que ce serait là-bas qui serait le plus, tu vois.
Ce qui explique aussi la Motown, tu vois.
Mm.
Voilà. Mais bon, on va dire que voilà, on aurait pu, c'est vrai, Bruno, mais bon. On restera sur Monsieur Marshall Mathers.
Voilà. La misère... vraiment touché la misère.
Ouais. On va mettre un morceau qui représente bien un petit peu ce côté Bad Boys. On va écouter The Real Slim Shady, venant du Slim Shady LP, hein, tout simplement.
Please Stand Up.
Please Stand Up, voilà, un petit son un peu de bandit. On écoute ça tout de suite. On se retrouve juste après sur Radio Graphite, 94.9 FM.
Yeah.
Léo, c'est pour toi, dans Money Time. Allez, maintenant.
Never seen a white person jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass first than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears. You shit, Christina Aguilera better switch me chairs, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off of Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working, and every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck with his windows down and the system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go?
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Yes, it's a Slim Shady in all of us. Fuck it. Let's all stand up.
Merci Buffa.
Avec plaisir.
Bon. Et en plus tu t'es pas gouré, alors ça c'est bien. Vous écoutez Money Time, votre émission basket sur Graphite 94.9 sur la bande FM. Et on continue à en découdre avec nos pistons, mais dans une période très sombre de notre histoire, des profondeurs de l'océan à l'escalade de l'Everest, et cela commence en 2011. Bienvenue sur les ondes de la 313 FM, l'émission qui dissèque l'âme de la Motor City. Installez-vous, car aujourd'hui nous allons prendre le temps. On ne va pas juste survoler les résultats, on va plonger dans le cambouis. Nous allons analyser 15 ans de turbulence, l'histoire des Detroit Pistons de 2011 à 2026. C'est une épopée qui commence dans le deuil d'une gloire passée et qui s'achève. peut-être par une lueur d'espoir. Préparez-vous, c'est l'heure de mon époque où c'était très dur d'être fan de cette franchise. Et je vous jure, j'arrêtais pas de perdre, c'était dur, hein, c'était très très dur. 2011-2014, le moteur tourne à vide. La franchise est orpheline de Bill Davidson, son propriétaire historique. Tom Gores, un milliardaire californien, rachète l'équipe. L'ambition est là, mais la méthode tâtonne. On est en plein post-Bad Boy 2.0. On essaye de reconstruire autour de Greg Monroe et d'un jeune bondissant nommé André Drummond, drafté en 9e position. Mais le péché original arrive en 2013. Dans une NBA qui commence à s'écarter vers le tir à 3 points, Détroit décide de faire l'inverse. On signe Josh Smith à prix d'or pour l'aligner avec Monroe et Drummond. Trois joueurs qui ont besoin d'être sous le panier pour exister. Résultat, un embouteillage tactique digne du périphérique à l'heure de pointe. C'est l'ère de l'incohérence. On dépense beaucoup pour gagner peu. On finit par couper Josh Smith en plein milieu de son contrat, juste pour pouvoir respirer. En 2014, Tom Gores veut un patron. Il recrute Stan Van Gundy, avec les pleins pouvoirs. C'est l'époque du « form a wall ». On construit autour du duo Reggie Jackson-André Drummond. En 2016, ça marche. On retrouve les playoffs, mais on perd 4-0 contre Cleveland. Et on se dit « c'est le début de quelque chose, on va y arriver ». Sauf que le plafond est bas, très bas. Alors en janvier 2018, la direction tente le tout pour le tout. Le transfert de Blake Griffin, la superstar californienne, débarque dans le Michigan. En 2018-2019, Griffin réalise sans doute l'une des saisons individuelles les plus héroïques de l'histoire de la franchise. Il joue sur une jambe, il porte la ville sur ses épaules et il finit en larmes sur le banc après une nouvelle élimination 4-0 contre Milwaukee. Le constat est amer, Détroit a tout donné pour être simplement médiocre. La Mustang est rutilante, mais le châssis est brisé. En 2020, changement de décor. Troy Reeser arrive avec une tronçonneuse. On liquide tout. Griffin, Drummond, les vétérans. On entre dans l'ère de la restauration. L'idée est simple, perdre pour mieux drafter. Et bingo, bingo, bingo ! 2021, la loterie sourit enfin. Le premier choix tombe sur Détroit. On sélectionne Kate Cunningham, un leader calme, intelligent. Le visage de la nouvelle ère. On empile les talents. Jaden Ivey, le sprinter. Jalen Duren, le colosse de 10 ans. Ozar Thompson, l'athlète venu d'ailleurs. Sur le papier, c'est séduisant. Sur le terrain, c'est le chaos. La jeunesse est livrée elle-même, sans cadre, sans boussole. L'enthousiasme laisse place à une inquiétude de stagnation. Puis arrive le naufrage de 2024, l'hiver le plus froid du Michigan. Nous arrivons au chapitre le plus sombre. Été 2023, Tom Gores sort le carnet de chèques et offre un contrat record. 78 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 78 millions de dollars à Monty Williams, finaliste NBA avec Phoenix. On se dit, ça y est, le shérif est en ville. C'est une catastrophe industrielle. Les Pistons s'enfoncent dans une spirale infernale. 28 défaites consécutives. Je pleure, je pleure, je pleure. Un record de médiocrité historique. Le vestiaire est en miettes, les femmes demandent la vente de l'équipe. Sales team! On finit la saison avec 14 petites victoires. 14 matins où je me suis levé, j'ai souri. Ça fait peu dans une saison, ça fait très peu. C'est le point de bascule. On ne peut pas tomber plus bas sans disparaître. 2025-2026, le retour du professionnalisme. Et nous voilà aujourd'hui en 2026. La purge a eu lieu. Monty Williams a été remercié après un an de calvaire. Un licenciement qui coûte une fortune à Gores. Ouais. Bah ouais, l'autre il est parti quand même avec les 78 millions. Sur un an, c'est propre. Hein.
C'est pas mal du tout, ouais.
Troy Reeser a laissé sa place à Trajan Langdon. La philosophie a changé. On a arrêté de chercher le coup de génie pour chercher la stabilité. On a fait revenir les vétérans comme Tobias Harris pour apprendre aux jeunes à être des pros. On a nommé JB Bickerstaff, un coach connu pour construire des fondations défensives solides. Aujourd'hui, les Pistons ne sont plus la risée de la Ligue. Kate Cunningham est devenu All-Star incontesté, le genre de joueur capable de dicter le tempo d'un match. L'équipe gagne des matchs, elle défend, elle respecte le public du Little Caesar Arena. On ne parle pas encore de titre, mais on parle enfin de basket et non plus de psychiatrie sportive. En résumé, chers auditeurs, les Pistons de 2011 à aujourd'hui nous ont appris une chose. On ne reconstruit pas une cathédrale en un jour, surtout si on change l'architecte tous les deux ans. Détroit est en train de retrouver sa fierté. La Mustang est de retour sur la route. Elle ne va pas encore à 200 km/h, mais au moins, elle ne caille plus au feu rouge. Bad boy un jour, bad boy toujours. Go, Piston, go !
C'est beau.
Ah, merci. Ouais, quand même.
Ouais. Ah, ça fait du bien.
Ah, merci. Ah ouais, ça a été dur. Hein. Je vous jure, ça a été dur. De 2011 à 2022, là, c'était trop dur pour moi.
C'est dur.
Tu croises des gens, ils disent, ouais, c'est quoi ta franchise préférée? Tu te dis, bah, Détroit. Ça te regarde, il dit, mais. Il est con, quoi. Sérieux, quoi. C'est sérieux, je dis, bah, si, Benoît Lasse. C'est ça, Benoît Lasse, les derniers encore. On a plus défaite, hein.
Ouais.
Eh ben non, on n'a pas lâché.
Eh ben non.
On n'a pas lâché. Vous, on ne lâchera jamais parce que de toute façon, c'est de l'ADN. C'est une façon de jouer, c'est une culture. Donc on ne peut pas lâcher ça. Mais là, on est bien content que ça se passe bien cette année. Et bah, après, on verra bien comment ça va aller pour la suite.
Espérons qu'on ne dérange pas trop. Tu sais, c'est la phrase, ça.
Dérange pas trop.
Espérons qu'on ne dérange pas trop.
Hein, le grand complot.
Sifflet, le petit coup de sifflet oublié l'année dernière. Ah, quand
ça, c'est quand même une honte.
Ouais. Je l'ai à travers de la gorge, ouais. Toujours. Hein.
Ça les fait pas
on le sent bien.
Hein. Ouais, mais c'est vrai que celui-là, il est quand même... Parce que c'est le match 6, hein, c'est pas le match...
Ouais.
Mais bon.
Non, mais ça fait plaisir de revoir justement des franchises mythiques, des trois. C'est ce qu'on disait quand tu regardais... C'est quand cette semaine, quand tu avais Spurs Détroit, où tu dis, il y a 3 ans ou 4 ans, c'était le fond de tableau.
Oui, et à l'ouest, et à l'est.
Oui, c'est vrai d'ailleurs.
Donc, mais je trouve qu'ils ont eu le nez fin en allant chercher Bickerstaff, justement, qui a su redonner une âme à cette équipe en allant chercher des joueurs revanchards et tout ça. Et je pense que c'est ça qui fonctionne. Lui est revanchard. Hein.
Lui,
il
lui
le dit.
Est revanchard.
Il le dit clairement, parce que genre, quand on.
Il est pas foufou.
Ah ouais, non, mais bon, ils ont été chers. Je pense que l'entraîneur, justement, colle bien avec l'équipe.
Avec la mentalité. Mm. De toute façon, je pense que c'est des gens qui ont connu tellement de défaites qu'aujourd'hui, ils ont une haine de gagner. Mais cette nuit, là, sur la défaite, je l'ai entendu Bickerstaff qui dit après, c'est qu'il est toujours obligé de jouer à fond. En fait, c'est ce qu'il a dit aux joueurs. Dès que vous vous relâchez un peu, bah, on devient une équipe, équipe normale. Il faut toujours jouer à fond. Donc voilà, bon, voilà, c'est tout pour Détroit aujourd'hui, on vous lâche, les amis. Et on joue un peu ? Allez, vas-y, on part sur le quiz. 1-1. Le quiz du Gosbourg, on y va.
J'espère qu'on a mieux révisé que la dernière fois.
Et le dernier coup, j'ai réécouté, c'était une catastrophe. Vous étiez nuls.
Fais gaffe, il pose des questions pièges, hein, je te le dis. Il y a que lui qui a les réponses. Hein.
Et le titre du quiz, c'est « J'ai gagné le titre dans plusieurs franchises ».
T'as vu, on est obligé d'avoir des
notes et des sièges. J'ai préparé. Les enfants, des anti-sièges. Ok, énigme 1. Je suis né en Caroline du Nord. Je suis considéré comme l'un des meilleurs ailiers de tous les temps. J'ai été drafté en 2003, la même année qu'un certain prodige d'Akron. J'ai remporté un premier titre dans le Texas. Puis j'ai été MVP des finales en dominant une équipe menée par ce même prodige.
Kawhi.
Quelques années plus tard, j'ai encore été champion au Canada. Kawhi Leonard. Bien joué, mon Bru.
J'ai révisé, là.
Allez, c'est normal qu'il trouve, c'est pas Boston. Énigme 2. Je suis un intérieur dominant des années 2000. On me surnomme The Jeezer. J'ai gagné...
Shaquille O'Neal.
Bien.
Oh oui.
Il est là.
Je tiens à signaler que j'ai pas de soleil pendant 10 sèches. Comme disait l'autre, je suis avec ma bite et mon couteau.
Ça suffit.
Enning 3, je suis l'un des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire.
Allen.
Non.
Ah, c'est pas lui.
En 2009, drafté en 46e position par les Cavaliers de Cleveland, où je ne passe qu'une saison. J'ai été champion une première fois en 2014 avec une équipe du Texas au jeu collectif légendaire. J'ai ensuite gagné 2 nouveaux titres, l'un en 2019 au Canada et le troisième dans la bulle. Je suis un shooter, poste 3.
Danny Green.
Bien.
Bien joué. Oh, j'avais sa tête, je ne sais plus comment il s'appelait.
Ah, celui-là est facile. Je suis né dans l'Alabama. Je mesure plus de 2 mètres, mais je n'ai jamais été une superstar statistique. Pourtant, mon palmarès ferait rêver les plus grands. J'ai remporté mes premiers titres avec une franchise texane menée par un pivot surnommé The Dream.
Robert Horry.
Bien. Oh, il est là.
Il en parle tellement.
Une équipe mythique de Californie. Enfin, j'ai ajouté 2 nouveaux titres avec une autre équipe.
Mais oui, c'est le celui qui mettait les buzzers, là.
On me surnomme.
Qui a gagné le plus de titres.
Celui qui mettait les buzzers, là.
Big Shot.
Ouais, Big Shot.
Mes tirs en playoff, je possède 7 bagues. Eh oui, seul joueur hors Celtic avec cette bague, on le rappelle. Et pourtant, c'est pas...
Et lui, c'est même dans 3 équipes différentes, lui.
Ouais. Bah, Danny Green aussi. C'est bien. Énigme 5. Je suis né dans le New Jersey. Je n'ai jamais été un grand marqueur. J'ai remporté mes premiers titres avec une franchise du Michigan à la fin des années 80. Quelques années plus tard, j'ai ajouté trois nouvelles bagues avec une équipe mythique de l'Illinois. J'ai été
Rodman.
Plusieurs fois bien. Ah, oui.
Dennis Rodman.
J'ai été plusieurs fois défenseur de l'année.
The Worm.
Je suis aussi célèbre pour ma personnalité excentrique que mon road trip à Las Vegas.
Il a galéré à Dennis Rodman après la fin des Bad Boys. Hein.
Ah bah oui, oui.
Il a déprime et tout.
Ah, voilà. Il est parti à San Antonio.
Ce Chuck Daly, en plus, c'était son père. Enfin, c'était un peu son père spirituel et tout. Enfin, lui, c'est un grand émotif, en fait, ce mec-là. Mais...
Énigme 6. Je suis né au Liban. Je n'ai jamais été une
Steve
super...
Steve Kerr.
Oh, mais... Hey.
Il a révisé, il t'a dit qu'il avait révisé.
Mais hey, bossé, monsieur.
Pas mal.
Son père était diplomate et il est mort. Ouais. Il est mort, Steve Kerr.
Oh, bah, je suis.
En service.
Ok. Bon.
Tu connais tous les Libanais de.
de la NBA.
Ils galèrent en ce moment, les Libanais. Hein, parce que, bon.
Énigme 7. Je suis né à Baltimore. Je joue au poste de meneur et je suis connu pour mon tir fiable et mon sang-froid. Je suis arrivé en NBA au début des années 90. J'ai remporté mes deux premiers titres dans une franchise texane menée par Hakeem the Dream. Plus tard,
Sam
j'ai...
Castle.
Oui. Oh là 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 là.
Il a dit quoi?
Sam Castle.
Plus tard, j'ai décroché une troisième bague avec une équipe mythique de Boston en 2008. C'est normal.
Ah oui, il était lui.
Il y avait Boston. Meneur de.
Ah oui, il était, c'est vrai.
Et son surnom, c'est. Allez.
Sam Castle.
Ouais.
Ah, je l'ai pas. Ah, c'est Chinese
Ouais, le chinois. Oh là là. Je dis pas aux gens que.
Il avait fait.
Ne le dis pas alors.
Hein, celui-là, il est plus dur. Celui-là, c'est le plus dur de la liste. Enigme 8, je suis né dans le Michigan. Je joue au poste de pivot et je suis connu pour ma détente impressionnante. Ma mère a, elle aussi, joué au basket au plus haut niveau. J'ai longtemps été connu pour mes actions spectaculaires, parfois maladroites. J'ai remporté deux titres consécutifs en Californie avec une équipe menée par Stephen Curry et Kevin Durant. Puis j'ai ajouté une troisième bague en Floride, dans une bulle très particulière, en 2020. Je suis également...
Ah, c'est le long, là.
Ouais, c'est lui.
Merde.
C'est lui, c'est lui.
Putain.
C'est lui.
Jamal McGee.
Ah oui.
Le long. Oui, le long.
Le long.
J'avais la tête, j'avais l'émission avec la kilonée, le jeu. Jamal McGee, là. Parce qu'il fait des conneries aussi, en même temps.
Propre.
J'ai trouvé Jacques Ilonil et Jamal McGee dans mon spot, moi.
Voilà. Jacques, il prend que les pivots. Les autres, ça ne l'intéresse pas. Énigme 9. Je suis né à New York. Avant de porter mon nom actuel, j'en avais un autre sous lequel j'ai débuté en NBA. Je suis l'un des
plus... Karim Abdul-Jabbar.
Ah, ouais, facile. Celui-là, c'est facile. Et le dernier, c'est le plus simple. Ouais.
Ah, non, ça, voilà, c'est un bivot. Un bivot.
Non,
c'est un gars de Boston. Ça va être un gars de Boston.
Non. Je suis né dans une ville industrielle du Midwest. Je n'ai pas fait l'université. J'ai disputé des finales NBA avec trois franchises différentes. J'ai été sacré champion à chaque fois dans une équipe différente. Je suis revenu là.
LeBron.
Oui. Oh, c'est collectif. Ouais. Ah là, je l'accorde, c'est collectif.
C'est collectif.
Ah, vous avez été bon. Ah, on sent que je leur ai donné un peu le thème avant.
Il faut donner le thème.
Ah, le dernier coup.
Sinon, on galère un peu.
Laborieux.
Sinon, on galère.
Ouais. Ah ouais, sinon, c'était tellement laborieux.
La prochaine fois, c'est nous qui faisons un quiz sans te préparer.
C'est pas mal. Bon, bah, ouais, non, on voit les professionnels quand même.
Ouais.
Là, on est très, très bien passé. On passe à notre buzzer beater. Attendez, il n'est pas prêt. On passe à notre buzzer beater.
C'est cadeau.
Oh, ça galère, ça galère.
Non, il suffit de demander, en fait.
Ouais, ouais. C'est ça.
Poliment.
Ouais. Ok, les amis. Alors, pour le buzzer beater, on va parler d'une franchise qui fait beaucoup parler en ce moment. C'est les Spurs de San Antonio. Et surtout Wemby. Là, je vous rappelle, il est joueur du mois, défenseur du mois, Ron Harper et rookie du mois, et le coach.
Son fils,
entraîneur du mois.
Il est entraîneur du mois. En fait, ils ont tout gagné.
Il y a que Spurs. 11 victoires.
11 victoires de suite. Bon, voilà. Mais moi, je veux vous demander quel est l'objectif d'une bonne saison pour les Spurs. S'ils arrivent, par exemple, en demi-finale de conf et qu'ils se font taper par Denver, est-ce qu'on pourra penser qu'ils ont fait une bonne saison ou pas ?
Moi, je dis déjà les playoffs, c'est une bonne saison.
Ah,
ça dépend ce que tu visais. Après,
Pour l'instant, c'était ça qu'ils visaient déjà.
On se rappelle que l'année dernière, ils les ont pas fait, hein, les
playoffs. Ah ouais, c'est,
oui,
ça.
Oui, c'est
pour ça.
C'est que demi-finale, c'est déjà.
C'est déjà loin. Hein.
C'est déjà très bien, parce qu'il faut savoir d'où ils viennent.
Oui, c'est ça.
Et en fait, ce qui est surtout impressionnant, c'est comment ils basculent de ce qu'ils étaient à ce qu'ils sont. Ça, c'est quand même fort.
Un laps de temps vachement.
Ouais. Personne ne pensait que ça allait arriver aussi vite.
Personne ne pensait que ça allait arriver, mais peut-être pas aussi vite que ça. Oui. Construire autour de Wemby, c'est ce qui était prévu.
Oui.
Par la franchise, mais construire aussi vite et avoir des résultats justement aussi rapidement que ça prenne. Je pense que même toi le premier, après Popovic, tout le monde a eu peur de dire il arrive, il est inconnu, nouvel entraîneur, tout ça. Qu'est-ce que ça va être là?
Et puis encore des doutes sur Mitchelson. Comment ça va être en playoff?
Ouais.
Ça va être ses premiers playoffs aussi. Enfin, c'est un autre jeu. Hein.
C'est ça. Mais c'est vrai que pour le coup. Bah, on les sent bien, ça joue bien, et puis ils n'ont pas tellement de pression que ça d'ailleurs, parce que là, nous on parle de ça, mais eux dans leur jeu, eux dans leur façon d'être, oui, même au niveau média et compagnie, j'ai l'impression qu'ils jouent plutôt sans pression, ils n'ont pas de pression en fait.
Ouais, mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que s'ils restent deuxième en fait, s'ils restent deuxième, parce que c'est bien parti pour qu'ils restent deuxième.
Oui, je pense aussi. Là.
Tu vois, ils vont jouer le septième.
Oui.
Tu vois, ça veut dire que c'est une équipe quand même... qui va pas
abordable.
Être très forte.
Abordable.
Actuellement, les Warriors, c'est... les Phoenix, Phoenix ou Warriors.
Phoenix ou Suns.
Ils doivent passer tous les Phoenix ou Warriors.
S'ils sortent là, ça ferait mal.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc, ça ferait mal. Mais s'ils passent ce tour-là...
Et après, ils jouent au Minnesota, Denver, Rockets. Bon, là, on pourra dire que s'ils arrivent jusqu'en demi-finale, ce sera une saison correcte.
Ah oui, c'est même très bien. Demi-finale, c'est même très bien. Demi-finale, c'est très bien.
Moi, je dis une très bonne saison, c'est au moins une finale.
C'est finale.
Ouais.
Ah, mais là, c'est très bonne saison. Quand tu vois en plus la densité de la conférence.
Ouais, c'est ça. C'est... Les playoffs, c'est traître.
On parlait tout à l'heure des Wolves.
Les playoffs, c'est traître.
Il faut croiser les Nuggets au complet. Les Wolves, OK, ici, il ne faut pas les oublier. Enfin, ça va être les Rockets.
Ouais, mais le favori, ça reste OKC, ça, là-dessus. Ouais. Et on est à peu près tous d'accord. Mais c'est. Mais ouais, moi, je les vois bien en finale de conf, en fait.
Contre OKC.
Oui. Ouais.
Moi aussi.
Oui, moi, j'ai l'équipe qui me fait peur, c'est Minnesota. Ils vont être capables, tu vois.
C'est ça,
moi.
Ouais, Denver aussi peut...
Ah, Denver, faut qu'ils retrouvent du jus.
Rockets, je pense que quand tu les vois jouer, c'est quand même...
C'est quand même décevant.
Ouais, Rockets. C'est...
Un petit peu.
Et KD, il joue 38 minutes par match. Il joue trop. Enfin, ouais, quand il joue à ce niveau-là, c'était comme au Suns l'année dernière.
On a l'impression qu'il a perdu son basket. Ouais. Hein. Un truc qui s'est passé...
Non, c'est assez surprenant, les Rockets, je sais pas trop.
Les Spurs, collectivement, ça joue. Tu sais pas d'où ça peut venir.
C'est ça.
T'as pas, tu peux dire, ouais, il y a Wemby, ok. Mais derrière.
Mais autour, ça joue.
Mais autour,
autour, ça joue. Et il joue sans pression. Ça se voit qu'il joue.
Champagne, Harper, ça peut venir n'importe où, en fait. Ça peut scorer de n'importe qui.
Ils peuvent à chaque fois trouver une gâchette différente.
C'est ça. Après, à voir comment ça va être en play-off, parce que.
Oui, c'est un autre championnat.
Voilà, les playoffs, c'est un autre game. Donc du coup, faut voir comment, mentalement, parce que la pression va rentrer un peu plus. Là, on verra.
Ah, mais ce qu'on disait physiquement là avec Détroit qui a joué physique sur Wemby, ça va être pareil en playoffs. Hein. Toutes les équipes vont lui mettre un petit dans les pattes qui va le.
Et pour Wemby, c'est quoi une bonne saison? Est-ce qu'on peut voir un titre individuel ou
défenseur de l'année?
Oui, défenseur.
Peut-être défenseur. Défenseur.
Défenseur de l'année dans le top 5 top 5 MVP.
Mais
je pense
une fois
que
tu as assuré la deuxième place, tu vas pas le mettre au frigo pour lui faire reprendre un peu d'énergie? Non, tu crois qu'il va jouer jusqu'au bout?
Non, parce que je crois qu'en plus, dans sa renégociation de contrat, il y a justement ce...
Ouais, il est éligible à un gros contrat, là.
Un plus gros contrat s'il décroche un titre
Sans déconner,
individuel.
Je crois que c'est 300 millions. 300 millions de dollars l'été prochain.
Il a dit qu'il ne voudrait pas cette somme. Il préfère rester dans une franchise et partager l'argent pour pouvoir jouer les titres.
D'ailleurs, parenthèse, il vient d'investir à...
À Nanterre.
Nanterre.
C'est bon, oui, on y va. Oh là là,
et on peut le remercier pour le All-Star Game aussi.
Oui, c'est vrai.
On peut grandement le remercier pour le All-Star
Game. Au mois de février, il est complet aussi avec ça.
Ouais. Bon, voilà, messieurs, il va être l'heure de dire au revoir. Mais avant tout, on a une annonce incroyable à faire. Messieurs, dames, si vous aimez le basket, réservez votre samedi 25 avril. Money Time se prépare un événement play-off en direct, tous ensemble. On vous donnera beaucoup plus d'éléments bientôt, mais réservez votre samedi 25 avril, ça va être incroyable. Eh, il est beau le teasing. Hein.
Ouais.
Personne ne sait.
Tu peux leur dire d'ailleurs, c'est un événement qu'on n'a jamais eu dans l'Oise d'ailleurs.
Ouais.
Un événement qu'on n'a jamais eu dans l'Oise, on va être les premiers à le faire. Je ne sais même pas si d'ailleurs il y aura un deuxième événement de ce type. En tout cas,
il y aura déjà un travail énorme. La France va se déplacer.
Là, c'est vraiment le big truc. Donc, pour tous ceux qui sont fans de basket et qui ont aimé justement toutes ces générations qu'on discute depuis une heure et même avant,
ouais,
je pense que là, c'est le rendez-vous des rendez-vous.
Le 25 avril, gardez votre soirée. Messieurs, des petites dédicaces. On vous écoute.
Si
vous avez l'occasion.
C'est ma femme. Je veux pas dédicacer la croix basket. Je veux même pas dédicacer la croix basket.
Même pas.
Allez au ciné aussi. Il y a deux films.
On peut même pas faire
le sablon.
Il y a deux films sur le basket en ce moment.
Même pas. Yanis, tout ça. Tu peux mettre la play. Je peux pas.
Allez, petite dédicace. Vas-y, commence.
Moi, alors, toute cette dédicace, donc dans tous les clubs où je suis passé.
On va commencer dans les années
par ordre alphabétique.
Plus ma famille, plus mon petit frère. Le Cameroun qui a tout le monde.
Bruce,
petite dédicace, allez au ciné, il y a deux films sur le basket là. Moi je suis allé voir Le Rêve Américain.
Il est génial.
Et c'était génial ce film, et c'est sympa pour un peu populariser le basket, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Allez-y. Allez voir Le Rêve Américain au ciné.
On fait une petite dédicace à Wam quand même, qui arrête pas d'envoyer des messages, qui s'ennuie chez lui là, qui est derrière la radio.
On pense à toi.
On vient vite. Hein.
Et puis moi, une dédicace générale avec un petit message parfait. Allez voter là, c'est important d'aller voter. Voilà, faites-vous plaisir.
Pas de politique.
Rappelez quand même que là,
c'est civique,
c'est important. Prenez part à la vie associative de vos villages, c'est très très bien. Merci à tous. Merci, Buffa. Est-ce que tu as une petite dédicace à faire ou tu vas encore te tromper en appuyant sur le bouton? Allez, on y va. Allez, salut les potos.
Allez.